qui en a le commandement. Plus de 50 divisions allemandes sont stationnées sur les côtes françaises ou à proximité. Berlin peut mobiliser ses renforts et anéantir toute tête de pont allié en moins d'une semaine et en n'importe quel point de la côte. Le mur de l'Atlantique, 4000 km de bunkers et de blockhaus placés de la Norvège au sud de la France. Des forteresses pour protéger les ports, des stations radars, des batteries d'artillerie et des obstacles anti-débarquement disposés sur les plages. Ce sont aussi de grandes quantités de mines, de fils de fer barbelés, de croix en acier et de plomb en béton. La côte atlantique est jugée imprenable. Les forces alliées n'ont aucune chance de réussir leur débarquement en Normandie. À moins qu'ils parviennent à faire croire aux Allemands qu'un débarquement plus important aura lieu à Calais. C'est le début de l'opération Fortitude, un ensemble d'opérations de désinformation et de diversion pour cacher aux Allemands le véritable lieu de débarquement, leur faire croire qu'il serait effectué ailleurs, au Pas-de-Calais, en Norvège. Dans un second temps, une fois le débarquement commencé, faire croire le plus longtemps possible que ce n'est qu'une diversion. L'objectif est de retenir les forces allemandes dans le nord de la France et sur les autres points du mur de l'Atlantique pour permettre aux alliés de consolider leur tête de pont jusqu'à atteindre la supériorité numérique. Le rôle de notre agent double va s'avérer essentiel pour que le piège fonctionne à merveille. Informe l'Abwehr qu'une vaste opération se prépare en direction de Calais. En parallèle, les Alliés créent le FUSAG, une fausse armée gonflable qui sert de leurre aux Allemands. Le FUSAG, ce sont 11 divisions fantômes, une armée de chars et de batteries d'artillerie en caoutchouc, de fausses infrastructures, plus de 200 faux navires, un faux terminal pétrolier et 50 escadrilles de faux Spitfire et de Mustang P-51. Une fausse armée si parfaite que les photos prises d'avion par les Allemands donnent parfaitement l'impression qu'il s'agit bien d'une importante armée stationnée dans le Kent, face au Pas-de-Calais. C'est aussi de fausses informations révélant que le commandant de la fausse 3e armée américaine, à la tête du FUSAG, ne serait autre que le très respecté et redoutable général Patton. Ce qui est vrai par contre, c'est que sur le territoire britannique, aucun véritable espion allemand ne sera en mesure de révéler la supercherie à Berlin. Et pour cause. Les Anglais ont fait prisonnier tous les agents allemands présents sur leur territoire. Plus d'une centaine au total. En leur donnant le choix. Devenir agent double ou mourir. Le jour J approche. Le plus grand débarquement de tous les temps va avoir lieu sous le nom de code Opération Overlord. De janvier à juin, Arabelle et ses agents envoient alors plus de 500 messages radio aux Allemands. Certains de ces messages annoncent le débarquement au mois de mai, puis sont rectifiés pour faire croire que l'équipe dirigée par Juan Puyol García glane au fur et à mesure des informations de plus en plus précises. De cette manière, l'état-major allemand et Hitler en personne continuent d'accorder leur totale confiance à Juan Puyol. Cependant, un homme, et pas n'importe lequel, le général Rommel en personne ne croit pas au débarquement dans le Pas-de-Calais. Incroyable que cela puisse paraître, notre agent double, Garbo pour les Anglais, demande l'autorisation au commandement des forces alliées de pouvoir révéler la date du débarquement aux Allemands avant le début des opérations. Et le général Eisenhower, chef suprême des forces alliées en Europe, donne personnellement son accord. Prétextant qu'un de ses agents va révéler une information capitale dans les heures à venir, Puyol García prévient l'Abwehr qu'un message important arrivera dans la nuit du 5 au 6 juin. 6 juin 1944, 3h du matin. Juan Puyol tente un premier contact avec les opérateurs radio allemands. Aucune réponse. Si on a baptisé, à juste titre, ce fameux 6 juin 44 de jour le plus long pour notre agent double, la nuit du 5 au 6 juin sera la nuit la plus blanche. Il tente d'envoyer son message de nombreuses fois et ce n'est qu'à 8h du matin qu'il parvient enfin à établir la communication. Arabelle est furieux et dit à l'opérateur allemand « Je ne peux accepter d'excuses ou de négligence. Si ce n'était pas pour mes idéaux, j'aurais déjà abandonné ma mission. » Le débarquement allié ayant déjà débuté, Il donne des informations détaillées à l'Abwehr, les services secrets allemands. En donnant ces indications capitales, Puyol García s'assure de la confiance totale d'Hitler. Le Führer est à présent convaincu que le débarquement de Normandie n'est qu'un leurre et qu'une opération de bien plus grande envergure aura lieu à Calais. Erwin Rommel, l'un des généraux les plus brillants du Troisième Reich et grand stratège, se trouve en Allemagne. Vu le mauvais temps qui règne sur la Manche, les Allemands ne s'attendent pas à un débarquement ce jour-là. Le voilà donc à Erlingen pour fêter l'anniversaire de sa femme. Mais, contrairement au Führer, Rommel a l'intuition que le débarquement qui a lieu en Normandie est bien celui qui compte. Il rentre dardard le soir même à son quartier général près de Paris. Il rassemble sa 15e armée et se met en route vers la Normandie. Cette armée, la plus vaste et la plus redoutable du Troisième Reich, a le pouvoir de repousser les forces alliées. Juin 1944. Trois jours après avoir débarqué, les Alliés n'ont qu'une crainte, être pris en tenaille par les forces allemandes à proximité. La 15e armée est aux portes de la Normandie et le sort des Alliés repose sur Juan Puyol García. Dans un dernier coup de maître, celui-ci va changer le cours de la guerre. Rommel veut être crédible jusqu'au bout. Il fait mine de convoquer ses quatre meilleurs agents, fictifs bien sûr, pour préparer ce qui sera son coup de grâce. Au terme de cette réunion imaginaire, il n'y a plus aucun doute. L'assaut en Normandie est une diversion et le débarquement de Calais est imminent. Il envoie un ultime message à Hitler. L'assaut qui a lieu en ce moment est un piège destiné à nous obliger, nous Allemands, à déplacer toutes nos réserves selon une stratégie précipitée que nous regretterions ultérieurement. Hitler y croit, dur comme fer. Il ordonne à Rommel de retirer ses troupes. Une décision lourde de conséquences pour le Troisième Reich. Alors que la 15e armée arrive à porter le tir des Alliés, elle est obligée de faire demi-tour. Et on connaît la suite. Ce sera le début de la fin pour le Troisième Reich. Sans le génie de Puyol García, le débarquement des forces alliées en Normandie aurait pu prendre une tournure désastreuse. Pourtant, jusqu'au dernier jour du Reich, Hitler garde une confiance aveugle en Rommel, son espion favori, considéré jusqu'au bout comme un fidèle partisan du Troisième Reich. Comble de l'ironie. Le 29 juillet 1944, soit bien après le débarquement, Puyol García est décoré de la Croix de Fer par les Allemands, une distinction attribuée par le Führer en personne pour ses services extraordinaires rendus à l'Allemagne. Et quatre mois plus tard, le 25 novembre 1944, il reçoit des mains du roi George VI la médaille de l'ordre de l'Empire britannique. Deux hautes distinctions. Avouons que c'est plutôt cocasse. Une dans chaque camp, preuve que son double jeu était parfait. Après la guerre, l'Espagne n'est pas un pays sûr. De peur d'être traqué par d'anciens nazis, Juan Puyol García et sa femme s'installent au Venezuela. En 1948, à la naissance de leur fille, Araceli quitte le pays et son mari pour regagner l'Espagne. Un an plus tard, elle est contactée par l'ambassade qui l'informe du décès de son mari suite à la malaria en Angola. Juan Puyol García, mort de la malaria. Vraiment, vous le croyez-vous? Allons, allons. Mais non, voyons. Pour tourner définitivement la page, il a mis en scène sa propre mort à l'aide des services secrets britanniques. Et sans doute que le couple légendaire battait de l'aile depuis un moment. Araceli refera sa vie avec un homme d'affaires américain. 1984. Dernier coup de théâtre. L'écrivain et politicien anglais Rupert Allison, qui écrit justement un livre sur lui, retrouve l'ancien agent double au Venezuela, où il s'est remarié et a trois enfants. Juan Puyol García mène une vie tranquille, dans laquelle il est libraire. Rupert Allison parvient à le convaincre de revenir en Angleterre pour fêter les 40 ans du débarquement de Normandie. C'est un monde sous le choc, qui découvre le visage de Garbo, le visage de celui qui, à juste titre, est considéré comme l'espion le plus prodigieux du siècle et peut-être même de tous les temps. C'est aussi un moment très fort pour Juan Puyol Garcia qui est reçu à Buckingham Palace par le prince Philippe d'Édimbourg. Il déclare, à proximité des plages normandes, là où des croix blanches s'alignent à l'infini, là où chacune d'elles signifie la mort d'un jeune homme dans la force de l'âge, il déclare avec toute l'humanité qui habite ce personnage hors du commun. J'ai fait tout ce que je pouvais pour sauver la vie de ces soldats. Mais je ne suis pas arrivé à sauver ceux qui sont ici. C'est terrible pour moi de voir ce cimetière. Et d'ajouter la vie des Alliés, mais aussi la vie des Allemands. Juan Puyol Garcia s'éteint à Caracas, 4 ans plus tard, à l'âge de 76 ans. Désormais, vous ne regarderez plus jamais les aventures de vos espions préférés avec les mêmes yeux. Reconnaissons que le génial agent double dont je viens de vous raconter l'incroyable histoire serait un héros de fiction qui n'aurait rien envié à James Bond, à Jason Bourne ou encore à OSS 117, bien au contraire. Juan Puyol Garcia, lui, a réellement existé. Ce fut un espion hors catégorie et probablement le plus grand agent double de l'histoire. Un homme qui s'est porté volontaire et qui a agi pour le bien de l'humanité. Un homme qui a toujours insisté pour dire qu'il croyait à la non-violence, à une évolution pas à pas de la société humaine et qui se méfiait des révolutions qui n'amènent que des excès. Un homme qui a aussi fait sienne, avec un talent hors norme, la fameuse maxime de Winston Churchill qui déclare « En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle doit être entourée d'un rempart de mensonges. » Juan Puyol Garcia était un maître de l'illusion, non seulement dans son travail, mais également dans sa vie personnelle. Il ne s'est jamais pensé en héros, et c'est à se demander pourquoi, finalement, il est si peu connu du commun des mortels. En cherchant sur Internet, vous ne trouverez ni rue, ni place à son nom, ni buste, ni statue à son effigie. Et si c'était encore une fois une entourloupe dont lui seul a le secret? Un dernier coup de génie de cet homme, maître absolu dans l'art de la tromperie.